Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et très contente de vous savoir à l'écoute de Radio Foot International en cette fin d'après-midi, bien sûr, et pour parler football tous ensemble. Avec un peu dans le désordre aujourd'hui les sujets, mais c'est pas grave. Nous évoquerons les regrets éternels de Jean-Michel Aulas, l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais, déplore d'avoir dû vendre son club à un investisseur américain qui a soldé l'esprit de famille et éclaté cette famille lyonnaise. Un changement d'air et d'époque, sans doute inéluctable, mais c'est dit. Mehdi Benassia, promu à l'OM, anciennement conseiller sportif de ce club, il est désormais directeur du football des Marseillais. Y a-t-il une différence? Les staffs ne sont-ils pas devenus un peu pléthoriques? Et cela peut-il gêner les résultats sportifs? Un invité spécial dans Radio Foot International aujourd'hui, un footballeur globetrotteur. Il a 28 ans, il a déjà joué dans 8 clubs et 6 pays, je ne me trompe pas. Hein. En 7 saisons, il est actuellement attaquant au FC Noah d'Erevan en Arménie. Bienvenue Virgile Pinson.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici avec vous.
Ah ben c'est nous qui sommes heureux de recevoir un footballeur qui pratique actuellement. En plus, on est en époque de mercato. Qui sait si vous ne ferez pas un septième pays, un neuvième club très bientôt. Mais on va discuter de cette carrière qui ressemble à celle de beaucoup de joueurs en vérité. Et c'est ce qui nous a intéressés. Dans ce studio aujourd'hui, vous allez voir, ils vont vous poser des questions eux aussi. Les amis de Radio Foot. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous et meilleurs voeux à tous nos auditeurs.
Très bonne année, cher Nabil, et partant pour une nouvelle saison apparemment. Voilà,
saison. J'ai prolongé Virgile ici. j'ai eu des contacts, mais je préfère jouer la stabilité.
Hervé Penaud, lui aussi est fidèle au poste.
Mais fidèle, c'est un mot qui me correspond tellement. Je vous embrasse tous. Bonne année à tout le monde, c'est très important. Et puis quel bonheur de vous retrouver pour cette année 2020.
Très heureux qu'on se retrouve dans la chaleur de ce studio. En ce moment, la chaleur,
exactement,
c'est important.
Oui, il en faut.
On manque de lumière, alors tant qu'à faire, la chaleur peut compenser. Jackie Bonnevé doit nous rejoindre d'ici un instant. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Le maestro, Radio Foot, c'est parti.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon.
T'as tiré d'autres pieds sans quoi.
T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
On sent Virgile Pinson dans la surface, c'est Virgile Pinson qui va.
T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère.
Virgile Pinson.
Et l'entrée de Virgile Pinson aura changé beaucoup de choses dans ce numéro 27.
Pinson Tsar, Virgile Pinson.
Pinson qui a donné à Diaby.
Pinson. Ice to one.
Le dribble de Pinson.
Pinson précoce.
Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les...
Vous n'irez pas à Paris, Virgile Pinson, si le PSG ou Paris FC vous appelait, vous direz peut-être oui.
On peut pas refuser la ville où on a grandi, mais on n'en est pas là.
Alors vous l'avez compris, chers auditeurs, et vous aussi Virgile, c'est votre côté globe-trotteur qui nous a bien plu. Et d'ailleurs, on se dit, est-ce que cet attribut, cette définition, ça vous plaît?
Que ça me plaise ou non, c'est vraiment ma vie. Je suis un globe-trotteur, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai beaucoup voyagé et j'ai eu beaucoup d'expériences à l'étranger et... J'en retiens que du bon et c'est que des belles expériences.
Alors, ce n'est pas forcément votre choix, on va en parler, mais avant de parler valises et voyages, je vais quand même vous présenter à nos auditeurs. Vous avez 28 ans, vous mesurez 1m80, c'est ça selon ouais. En tout cas ce qu'on peut lire sur le net. Vous êtes attaquant.
Quand on l'a vu, moi j'ai trouvé qu'il y a 1m92. Très surpris.
Là, vous exagérez un peu parce que David Finzel fait 2 mètres et on a quand même un paramètre. Vous êtes ailier gauche, vous êtes dans le sillage de Mbappé et Neymar qui ont joué à Paris, n'est-ce pas?
Ouais, c'est la même position, c'est ça.
Et vous avez des attaches, alors ça nous a intéressé aussi, vous avez des attaches en Afrique, même si vous êtes né dans la banlieue de Bordeaux et que vous avez été plutôt élevé dans la banlieue parisienne. Vous êtes franco-camerounais?
C'est ça. Je suis né d'une mère camerounaise et d'un père français. Donc je suis franco-camerounais et fier.
Elle est d'où votre maman au Cameroun ?
Elle est de Yaoundé, de, plus précisément de Bafoussam. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui. Mm-hmm. Et vous y êtes allé déjà ?
Je suis déjà allé au village il n'y a pas longtemps, pour la première fois. Pas la première fois, parce que j'avais 2 ans, mais j'avais aucun souvenir. Mm-hmm. Mais je suis retourné il y a 2 ans. Et ça m'a fait plaisir de voir la terre des ancêtres.
Ouais, ça vous a plu ?
Ouais. Bon.
Alors, il y a peut-être quelque chose d'héréditaire qui vous pousse à voyager comme ça, d'un endroit à l'autre. Vous, c'est plutôt, disons que la planète football, on le voit nous depuis qu'on fait cette émission, elle s'élargit de plus en plus. Hein, le monde des footballeurs et l'horizon devient de plus en plus vaste. Alors, pendant un moment, c'était les États-Unis qui étaient la terre un peu loin de l'Europe eurocentrée football. Il y a eu la Chine aussi pendant un moment. Maintenant, c'est la péninsule arabe. Certes désertiques, mais peuplés de stades qui sont parfois climatisés. Vous, c'est plutôt à la conquête de l'Europe que vous êtes parti, comme on voit. D'abord, vous avez été formé en France quand même. Vous avez été formé du côté du HAC, le plus vieux club de football de France.
C'est ça. J'ai été formé au Havre, au HAC, où j'ai fait 6 années, 6 belles années. Et c'est mes meilleurs souvenirs au centre de formation avec tous les amis.
Alors racontez-nous, parce que ce n'est pas des amis très, très discrets, on va dire. Vous avez aussi connaissé des gens qui sont un peu connus quand même grâce à ce...
Oui, bon, j'ai grandi avec... j'ai connu Paul Pogba au centre de formation, qui était au centre de formation, Benjamin Mendy et beaucoup d'autres qui ont signé pro. Donc,
Et Mahrez, il faut surtout dire Mahrez, parce que je suis là. Sinon ça va me vexer. C'est...
Voilà, exactement.
Ouais, bah, en fait, il m'a dit qu'on voyait qu'il était déjà au-dessus. Ouais, c'est d'imaginer ça, à ce qu'il fasse une carrière comme ça, c'est vrai que c'est difficile.
Non,
à ce
moment-là. J'ai connu aussi Riyad Mahrez là-bas. Mais Riyad, en fait, il n'était pas au centre, il était venu un peu plus tard. Ouais. Il était déjà avec son appartement, donc c'est pour ça. Mm-hmm. Je cite vraiment ceux qui étaient au centre avec nous. Mais Riyad, je l'ai. Il était très fort à cette époque-là.
Bah, il vaut mieux que tu dises ça, hein, s'il te plaît. Parce que là, sinon, on ne sort pas de l'émission vivant. Hein.
Ah, on le regardait du centre de formation, ces matchs. Donc, c'était plus un grand pour nous.
Mm-hmm. Un grand modèle, on va dire.
Ouais.
Et donc, vous étiez là-bas. Ensuite, vous êtes allé du côté du centre de la France, Clermont, Limoges, c'est ça ?
C'est ça. Je suis parti à Clermont après, ensuite. Parce qu'il y avait un autre championnat à cette époque-là. En 19.
Toi, tu signes pro au Havre ou pas ?
Non, mon premier contrat pro, c'est à Reims.
D'accord, ok.
C'est à Reims.
Stade de Reims. Il y a beaucoup d'admirateurs du Stade de Reims dans cette rédaction, je vous dis.
Ah, c'est la même couleur que le club.
oui, c'est le rouge.
Mais ouais, c'est à Reims où je signe mon premier contrat pro. Mm-hmm. Mais ouais, j'ai beaucoup bourlingué.
Mais alors Virgile, juste sur ces années-là, parce qu'on entend des témoignages, on entend les footballeurs. Moi, je pense même au témoignage de Cristiano Ronaldo quand il quitte son île de Madère pour aller jouer au Sporting. Il a 11-12 ans et en fait, sa famille lui manque terriblement. Ils sont un peu paumés, les enfants, dans ce cas-là. Est-ce que vous avez ressenti ça ou votre passion pour le football vous aider à dépasser un peu ce côté difficile ?
Bien sûr, quand Le Havre est venu me chercher... Pour me sortir de chez ma mère, c'était très compliqué, surtout que je n'avais pas encore l'âge pour entrer au centre d'information. Donc, il fallait que je fasse la première année en famille d'accueil. Donc, tu vois que tout le monde, tous ceux qui sont de la région parisienne, ils sont au centre et toi, tu es en famille d'accueil. C'était vraiment très compliqué la première année. Et j'ai pleuré ma mère, j'ai appelé ma mère en pleurant et tout. C'était compliqué. C'était très difficile.
Et après, tes copains aussi, quoi, de la région parisienne, t'as quitté.
Mes copains aussi, que j'ai quitté. Et après, quand je suis rentré au centre de formation l'année d'après, ça c'était mieux parce qu'en fait, on est plusieurs dans le même cas au centre de formation. On est tous ensemble, on a tous quitté notre famille. Donc, c'est mieux d'être... quand on est ensemble, c'est plus facile.
Ça vous rapproche aussi.
C'est ça. Mm-hmm. C'est moins difficile de penser à sa maman et tout. C'est cool. Mais j'ai beaucoup pleuré en famille de la première année.
Ouais. Et puis, t'es sensible aussi, toi.
Plus trop, ça va.
En tout cas, vous êtes parti à la conquête de l'Europe. Vous avez joué en Belgique, en Turquie, en Roumanie, en Bulgarie.
Et maintenant... spécialiste du mercato. Ouais. Faut le prendre comme spécialiste du mercato. Il va nous expliquer les coulisses.
C'est vrai. Hein. Je pourrais.
C'est grâce à un agent, Virgile, ou c'est pour vous des invitations, un peu le hasard.
La débrouille.
C'est la débrouillardise. Hein. Une fois que j'ai pu continuer avec mon premier agent, bah, je me suis débrouillé. Parce qu'après, faut avoir confiance. Et la confiance, ça se fait avec le temps. Donc...
Et des fausses promesses,
c'est
plein
ça,
de choses.
C'est ça, il faut trouver la bonne personne. Ouais. C'est compliqué de trouver la confiance.
Mais t'avais quand même quelqu'un qui s'occupait de ça. C'est pas toi qui allais passer un coup de fil. T'as indiqué en Belgique, ils cherchent un joueur.
Non, mais après, t'es contacté
par
plein de gens.
Ouais. Je sais pas comment ils ont le numéro quand...
Ah, c'est ça.
Ils ont le numéro et ils me contactent.
C'est des intermédiaires ensuite qui prennent contact. Et,
c'est ça, ouais.
Et ça change selon les périodes. Et,
c'est ça, ça change selon
les périodes. Et puis, il y en a qui racontent des histoires et puis il y en a qui sont un peu plus sérieux. Quoi.
C'est ça, il y en a beaucoup qui racontent des histoires.
Bah, le problème, c'est quand t'as dit le Real Madrid, tu t'es dit lui, à mon avis, il abuse un peu.
Ouais, lui. Ah. Après.
Qu'est-ce que t'as vécu, le truc le plus incroyable là, dans ton parcours, si t'as un souvenir qui te revient de...
Par rapport au mercato?
Ouais, un truc incroyable.
Bon, ça c'était réaliste.
Ouais.
Non, je vais pas dire ça.
Ah bon, bah tu me le raconteras quand on sortira de.
Ouais, bon, mais sinon, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs. Qui monte et ouais. Ça peut faire mal à ça
une
peut
carrière.
Faire ça peut faire mal, faut être vraiment dur mentalement parce que c'est pas facile. Tu
on,
sais pas où tu vas te retrouver.
On vous prépare en centre de formation à ça?
Non.
À côté psychologique?
Non. Non. On prépare pas du
à
tout.
À côté de vous, vous avez quelqu'un qui fait partie de la direction technique nationale de France, il s'appelle Jacky Bonnevé, ancien joueur aussi notamment de l'OM. Bonjour Jacky.
Bonjour à tous, bonjour Annie, Virgile, j'étais avec un peu de retard, j'ai écouté ton histoire, on a un point commun. J'ai aussi joué au Havre.
Okay.
Je connais bien la cave verte.
Et si elle est marine alors
on ah, si marine. Nabil, Hervé, messieurs, bon.
Bonjour. Oh,
Merveux, Jacques. Mais quand tu arrives dans des clubs comme ça, y a-t-il eu des moments où tu ne peux même pas t'adresser aux gens? Parce que quand tu viens 6 mois, vu le nombre de clubs que tu as fait, et parfois tu es resté peut-être que 6 mois, et est-ce qu'on ne se sent pas un peu seul dans un vestiaire? Parce que la difficulté, c'est d'intégrer un vestiaire, surtout que tu viens, entre guillemets, aussi comme un concurrent.
J'ai fait qu'une fois 6 mois, c'était quand je revenais de blessure, c'était en Belgique. Et non, ça va, ça c'est je me suis bien intégré, mais après non, j'ai fait minimum 1 an, donc on prend le temps de ouais. S'intégrer, même si c'est toujours mieux quand il y a
des Français,
voilà, quand il y a des Français ou même des étrangers, ouais. Plusieurs étrangers dans le
oui, oui.
C'est toujours mieux.
Alors, Virgile, justement, vous jouez maintenant en Arménie, dans le FC Noah. Il y a des Français dans l'effectif?
Mais c'est logique, il est d'origine camerounaise. Donc d'être au FC Noah.
N'est-ce pas? Oui, oui, d'ailleurs, Olivier Pron a cru que vous jouiez pieds nus au club de Yannick Noah à Yaoundé.
Des francophones.
Est-ce qu'il y a des Français ou
oui,
des
oui,
francophones
y a,
dans votre club?
Il y a des francophones. On est 4-5.
Mm-hmm.
On est 4-5. Il y en a qui ont connu la Ligue 2, il y en a qui ont connu les championnats français, la Ligue 1 aussi comme moi. Et il y en a un qui était formé à Nantes. Donc on est 4-5.
Alors l'Arménie, au milieu des montagnes, hein, vous êtes à peu près à 1000 mètres d'altitude à Erevan. Et surtout là, vous êtes en pause parce que c'est l'hiver, parce qu'il doit y avoir beaucoup de neige. Racontez-nous, c'est une zone sismique aussi, ça tremble souvent la terre là-bas?
Je ne l'ai pas encore vécu.
Pas encore, parce qu'il y a des régions comme
il
ça.
Il a fait trembler par un peu le stade, on marque en début.
Oui, alors on a entendu tout à l'heure, n'est-ce pas? Est-ce que. Racontez-nous ce championnat. Vous jouez dans le club qui actuellement est en tête du championnat d'Arménie. Finalement, est-ce qu'il y a des grandes différences en dehors évidemment du niveau? Est-ce que l'organisation? Est-ce que ce ne sont que des entraîneurs locaux?
Personnellement, mon club, c'est un club avec un nouveau projet. Avec un nouveau projet, donc il y a beaucoup d'étrangers, même le coach est étranger. Dans notre équipe, il y a presque...
Il vient d'où, votre coach?
Il vient du Portugal.
Mm-hmm. Bah oui.
Ah bah, ils sont...
C'est des voilà, gros joueurs.
Sinon, il faut le dire à Jacky, hein, il faut ouais. Donner la nationalité portugaise aux entraîneurs français, ah, toi du boulot.
Ah. Ouais, c'est portugais, dans l'équipe, il y a beaucoup de Portugais, de Brésil, il y a beaucoup d'étrangers. Mm-hmm. Il y a plus d'étrangers que d'Arméniens.
C'est autorisé donc.
Donc ça se fait facilement quand il y a plusieurs étrangers, on est tous à l'étranger, on est tous à l'aise. Et l'Arménie c'est un beau pays qui accueille bien un peuple gentil.
C'est un bon championnat.
Le championnat c'est un championnat qui cherche à évoluer, d'où le projet du président qui veut que le championnat évolue, que le pays aussi évolue par rapport au foot. Et on est en plein dedans.
Alors là, justement, vous êtes en première division. Et alors, vous avez été qualifié pour la plus petite, certes, des Coupes européennes, mais c'était c'est la Ligue Conférence. Ah ouais, alors quand même, on est obligé, hein, Virgile. On va parler d'un match inoubliable.
There's delivery. Oh, and Tosin got the head to it. And Chelsea take the lead. And Tosin's got his first Blues goal.
Le cauchemar continue pour le FC Noah. C'est le 8e but concédé. Et cette rencontre va se terminer. Score le plus large de la saison pour Chelsea.
Chelsea 8, Noah 0.
Virgile Pinson, c'était le 7 novembre dernier, troisième journée de Ligue Conférence. Vous jouiez à Stamford Bridge. Le commentateur, évidemment, vous avez pris 8-0, parle de cauchemar. Mais est-ce que finalement, c'était un calvaire ou alors quand même, il y avait quelque chose de magique dans cette soirée pour vous, venant d'Erevan ou vous-même venant de France, et d'aller jouer à Stamford Bridge, d'avoir finalement peut-être cette chance?
Moi qui suis un compétiteur... J'étais beaucoup énervé parce que j'ai pas eu la chance de commencer. J'ai pas eu la chance de commencer ce match.
Tant mieux peut-être. T'étais pas dans la mauvaise équipe.
Peut-être, ouais, peut-être. C'était,
mais... Genre de match où t'as pas envie de rentrer non plus. Ouais.
Après, je voulais quand même rentrer pour montrer ce que je sais faire. Ouais. Parce que je sais que j'avais beaucoup à faire, mais j'ai pas beaucoup joué. Et je pouvais pas aider l'équipe sur le banc. Ça veut dire que c'était vraiment un sentiment... qui n'est pas bon à vivre.
Mmh. De frustration, oui, parce que le premier but arrive à la 12e minute et le dernier, c'est un pénalty à la 76e. Donc, c'était quand même...
C'était très compliqué.
Qu'est-ce qui était dur?
Les vagues, non?
C'est ça, les vagues.
L'impuissance, quoi.
L'impuissance.
De zéro, sentir... Il n'y a pas de plaisir, en fait.
De et... se demander quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est ça?
Ouais. Zéro...
Zéro plaisir.
Même que de voir qu'on n'avait pas l'envie, on était plus observateurs. Je voyais que les gens, on était plus venus regarder que... Et ça, c'est... Ça fait mal quand tu peux pas... Parce que moi, je suis cette saison, surtout cette saison, je suis plutôt un leader. Et de pas pouvoir montrer qu'il faut pas faire comme ça, ça faisait mal. Ça m'a fait mal, quoi, ce match.
Ouais. Mais Stamford Bridge, ça vous a impressionné?
Bah oui, ça peut que impressionner la première
ligue. Parce que votre stade, il a 3000 places, c'est ça, à Erevan?
Oui, c'est ça. Mais ouais. Le stade national où on joue les Coupes d'Europe, c'est un peu plus, ouais. Beaucoup plus. Mais ouais, Stamford Bridge, un stade rempli, près des supporters, le banc qui est, on dirait, on est sur le terrain aussi.
C'est Jackie, vous connaissez bien l'Angleterre, vous étiez avec Leicester City.
Oui, hein, on a d'ailleurs gagné à Stamford Bridge. Je suis allé qu'une fois, sous l'époque Puel, il y a 7-8 ans. Moi, j'avais une question à te poser, parce que j'ai écouté ton parcours, et si j'ai bien écouté, 8 clubs et 6 pays, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tant de mouvements? Est-ce que tu as été blessé? Est-ce que tu t'es retrouvé sans club? Est-ce que tu as été demandé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tant de mouvements?
Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tant de mouvements? C'est que j'aime bien... Quand je sens que je ne suis pas à l'aise quelque part, j'aime bien partir. D'accord. Je préfère vite partir que...
Donc tu ne t'es pas senti à l'aise souvent alors?
Non, mais est-ce que tu ne t'es pas retrouvé dans des trucs un peu parfois bancal avec des retards de paiement?
Aussi.
Ça pousse les joueurs à partir, évidemment. Quoi.
Aussi.
Ouais. Parce que j'ai vu ton parcours, il y a des clubs qui m'ont parlé à ce niveau-là. Je me dis que c'est normal qu'il y ait une forme d'instabilité aussi. C'est aussi, comme quand vous allez dans un job, on ne vous paye pas, vous ne restez pas.
L'important, c'est aussi de découvrir des choses. Toi, tu auras une expérience assez extraordinaire. Et la Turquie, qui est un pays proche, voisin, est-ce que ça ne te dirait pas? Parce que je pense que le niveau...
Antalya Sport.
Antalya,
c'est pas mal,
c'est un bon club. Et en plus, il y avait des gens connus quand même à cette époque-là. Il y avait un grand Camerounais, non?
C'est ça, ouais.
C'est
avait,
ça
la légende camerounaise. Il y avait Samuel Eto'o.
Ah, tu as été dans le vestiaire avec Samuel Eto'o?
Ouais, je me suis entraîné avec lui.
Ah, avec Samir Nasri aussi, Samir
Nasri. Il y avait Menez.
Jérémy Menez.
Ah, oui, il y avait aussi William Vainqueur.
Oui, William.
Ouais, enfin, Eto'o, c'est au-dessus. Hein.
Et tu as joué un peu? Tu t'es juste entraîné en Turquie? Tu n'as pas joué avec Antalya en première?
Non, en fait, fallait que... Ils m'ont proposé en janvier, mais j'ai préféré revenir en France. D'accord. Dans la stabilité où Reims m'avait contacté pour... signer mon premier contrat pro.
C'est compréhensible.
Est-ce que tu as à un moment, tu as voulu quand même rester dans un club? Tu t'es pas dit, tiens, j'aimerais aussi m'épanouir en restant un peu plus de temps?
En fait, on s'épanouit quand on joue et quand le club aussi est stable. Mais si le club n'est pas stable et que tu joues, tu vas chercher la stabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup bougé. C'est soit il n'y avait pas le temps de jeu, soit il n'y avait pas la stabilité du club. Donc, j'ai préféré partir.
Le stade de Reims, ça s'est passé comment?
Le stade de Reims, ça s'est bien passé. C'est mon premier, c'est un bon souvenir. C'est mon premier contrat professionnel où le club m'a fait confiance. Après, j'ai pas eu le temps de jeu que j'aurais aimé avoir. Et après, j'ai dû me séparer pour aller à QRM, à QV Rouen. Mm-hmm. Mais c'était le temps de jeu, qui manquait.
Fois, c'est ça. Et alors, Erevan, c'est pour durer ?
Pour l'instant, je suis en fin de contrat à la fin de saison, mais on est en position de rester et en pourparler. On cherche à gagner le championnat. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on est à Erevan, on est à Noa.
Ouais. Vous êtes franco-camerounais, vous êtes donc à la fois bleu et lion, plutôt bleu ou plutôt lion ?
50%, 50%. Je supporte les deux avec le cœur.
Ah. Ça va, ils ne se rencontrent pas si souvent que ça, Hervé.
Non, assez rarement.
Et vous rêvez qu'une des deux sélections, alors évidemment, je pense au Cameroun, vous appelle un jour ?
Bien sûr, c'est un rêve de... C'est une fierté de... Ça serait une fierté de jouer pour son pays, pour sa nation, mais c'est un rêve.
Ouais, du côté des Lions ?
Des deux, c'est... Mais...
Il vous connaît donc, Samuel Eto'o ?
Bien sûr, il me connaît.
Bon, on ne sait jamais.
Le premier.
Non, mais après, c'est des questions de visibilité. Et puis, il y a parfois des éclosions plus tardives que d'autres. On peut faire une énorme saison, être dans les radars subitement. Football, ça va vite dans un sens comme dans un autre. C'est ça. Comme on se le disait avant l'émission, ça ne tient pas à grand-chose aussi parfois. Quoi. Un peu c'est de chance, vrai. Des rencontres, un bon contexte.
Et puis la chance, quand on est attaquant et les gauches, on est bien d'accord. C'est ça. Ouais. C'est en peu de temps, tu peux te mettre en valeur en scorant. Et des attaquants, tout le monde en cherche. Il y en a très, très peu. Et si tu as la chance d'être efficace, tu vas souvent, et la plupart du temps, être demandé parce que tout le monde cherche des attaquants. Et des ailiers, c'était quand même une espèce en voie de disparition, il me semble. Donc, si tu persévères, mais entre-temps, tu as 28 ans, il n'y a surtout pas de temps à perdre. Quoi.
Virgile, s'il y avait un agent qui pourrait vous placer dans un club, quel serait le club, raisonnablement, je ne parle pas du Real Madrid ou d'autres clubs comme ça, où est-ce que vous aimeriez jouer une saison, deux saisons prochaines ?
Franchement, je n'ai pas de club favori où j'aimerais jouer. Mais
un championnat en particulier ?
Pourquoi pas dans les 5 grands, revenir un peu dans les 5 grands championnats
européen.
D'Europe, oui. Mm-hmm. Ouais. Pourquoi pas Mais sinon, j'ai pas de...
Non.
Non, j'ai
pas de rêve.
Pas de rêve.
Non.
Pas de club favori.
Pas de club favori. Bon.
Et Le Havre qui est en difficulté, là. Le Havre en difficulté. Par exemple,
bah oui.
Ça cherche des joueurs à l'intersaison, là.
Il y en a qui sont un peu malades et qui
partent. Non, mais je suis juste réaliste. Il dit qu'il arrive en fin de contrat. Les clubs français, ils sont obligés de faire des bons coups, de recruter intelligemment. Puis c'est tout, quoi.
À bas prix, notamment Le Havre qui est en grosse difficulté.
À bas coût, ça aurait été en Azerbaïdjan, mais...
Oh, magnifique.
Ça aurait fait un pays.
Là, on est en Arménie.
Bon, ben, on va continuer à parler football. Merci beaucoup, Virgile, de nous avoir tracé quand même ce parcours qui n'est pas banal, mais qui aussi se retrouve beaucoup dans des carrières de joueurs de football globetrotter. Donc, et nous, ça nous plaît ici à Radio Foot. Et on va parler football et on va aussi parler avec vous de football, si vous le voulez. On continue.
À vous entendre, on a l'impression que jusqu'à présent l'OL est un club artisanal et que demain vous lui faites franchir assez rapidement le stade industriel.
Aujourd'hui, nous avons l'ambition d'une part parce que les circonstances sont favorables, mais aussi parce que je crois d'autres clubs ont montré la voie de pouvoir constituer un ensemble qui est à base bien sûr d'économies et de structures juridiques, mais qui laisse aussi bien entendu le pouvoir aux sportifs.
Il est l'un des patriarches du football français et sûrement celui qui possède le plus beau palmarès avec ses 7 titres consécutifs de champion de France. Mais à 75 ans, le Rodanien Jean-Michel Aulas n'est plus président de l'Olympique Lyonnais. Il y a 2 ans, il a revendu son bébé, on peut dire, qui n'était pas tout à fait d'ailleurs, ou plus tout à fait son bébé. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a dû vendre le club à l'américain John Textor, une vente qui nourrit en lui beaucoup de regrets, peut-être avec le temps. Comme il l'a raconté à la chaîne YouTube Carré, écoutez cet extrait.
Est-ce que parfois vous regrettez d'avoir vendu, tout bêtement ?
Ah bah bien sûr, évidemment. Quand on dit vendu, je n'étais pas l'actionnaire, j'étais le principal actionnaire, mais je n'étais pas majoritaire, puisque j'avais un peu moins de 50%. Et les deux actionnaires, Jérôme Sédou et IDG, qui était un actionnaire chinois, se sont ligués contre moi après le Covid parce qu'ils avaient besoin tous les deux de vendre.
Votre regard sur la présidence Textor, c'est quoi ?
Non, mais John, c'est un... C'est pas vraiment un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui, un peu comme Bill Gates ou d'autres grands entrepreneurs, mais au sens de la recherche, au sens de la créativité, a des idées. Il a des idées en permanence. C'est pas vraiment quelqu'un qui veut gérer une entreprise pour la gérer. Et quelquefois, il prend... des très bonnes décisions, et puis quelquefois sûrement des moins bonnes. Mais en tout cas, c'est l'antithèse de ce que j'avais fait. Moi, j'avais fait une famille où tout était groupé et où tout le monde était redevable de tout le monde. C'est pas qui a raison, peut-être que j'ai pas raison pour le futur, peut-être que la galaxie multi-club donnera raison à John dans le futur, et je le souhaite pour Lyon.
John, qui aime bien châtie bien, peut-on se dire, en écoutant cet extrait. En tout cas, parce que l'interview dure 1h35, oui, hein, donc oui.
C'est long.
En tout cas, Hervé, vous qui l'avez bien connu, Jean-Michel Aulas, est-ce qu'il surjoue les regrets ou sont-ils évidemment nourris par la déception des choix que fait l'entrepreneur américain ?
Avec Jean-Michel Aulas, c'est toujours un petit peu difficile, parce que vous savez, il y a toujours une part de communication. Oui. Ben, de toute façon, il y a il surjoue un petit peu parce qu'il était obligé de vendre. De toute façon, il le sait bien. Et puis, il faut surtout pas oublier.
Lui, il dit, moi, je voulais pas. C'est
oui,
les autres qui ont voulu.
Bien entendu. Ben, ça, c'est pas faux qu'on lui a, d'une certaine manière, pour la pousser. Ben, oui, parce qu'il n'avait pas 50% à un moment. IDG, effectivement, et Seydou ont eu besoin de l'argent. Et quand ils ont dit, mettons, on vend nos parts, c'était fini. Il y avait plus, sauf s'il avait pu la racheter, mais c'était évidemment pas possible. Donc, vous savez, il se met toujours dans la bonne position, hein, Jean-Michel Aulas. C'est vrai qu'il a fait de ce club quelque chose d'incroyable. C'est absolument invraisemblable. Hein, parce qu'il faut venir voir d'où il l'a pris en Ligue 2, il ne faut jamais l'oublier.
En 1987.
Et il en a fait un grand club.
36 ans, hein, il est resté
à la tête. Pas français, mais européen. Simplement, vous savez, c'est comme les fins d'histoire, des histoires d'amour. Parfois, ça finit mal. Et la difficulté, c'est de trouver un actionnaire après majoritaire. Ce n'était pas son choix, lui. Hein. Il voulait Gillette, hein, le gars de Liverpool. Là. Et finalement, les banques se sont dit c'est plus intéressant du côté Textor, qui est un type un peu, effectivement, qui a des idées de partout. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'avait expliqué comment il comptait faire rentrer de l'argent dans Lyon. Je pensais qu'on était dans un autre monde. Je me suis dit, mais c'est impossible.
Il le voyait sur les applications.
Les supporters de Botafogo seraient supporters aussi de Lyon, qui seraient supporters de Crystal Palace. Enfin bon, un truc un peu délirant, qui n'avait aucune chance de fonctionner. Mais en revanche, c'est vrai qu'il a plein d'idées. Mais ce modèle-là, ce n'est pas le modèle d'Aulas. Aulas, c'est un football un peu à l'ancienne par rapport à nous, ce qu'on connaît. Et nous, avec les bases qu'on peut avoir, notamment la DNCG, qui veut voir l'argent avant de donner quitus à Textor. Et Textor, lui, vient avec des idées. Il dit, on va vendre ça. Oui, mais où est l'argent ? On va bientôt être introduit en bourse. Mais êtes-vous introduit en bourse ? Non, mais ça va venir. Donc, c'est compliqué.
Nabil, est-ce qu'il y avait encore cet esprit famille qu'il revendique autour de l'OL, où finalement, les temps changent et déjà, ça avait un peu...
Il était un peu en fin de cycle, entre guillemets, et même ses décisions, ses dernières décisions, alors même s'il n'est pas tout seul. C'était peut-être moins pertinente qu'à une époque. Et puis c'est vrai que le football évolue, la concurrence en Ligue 1 elle a aussi évolué. Et il n'avait pas tort quand il disait « mais comment vous voulez que je matche le Paris Saint-Germain ?» Il ne matche pas le Paris Saint-Germain, il matche un pays. Quoi. Mais ça ne nous empêchait pas de pouvoir bien travailler. Mais ils ont quand même réussi à faire de l'argent sur les derniers temps, parce que ça a toujours été un club formateur qui a sorti quand même des joueurs importants, Fekir, et même des recrutements intelligents.
Ndombele,
Ferland Mendy. Ils faisaient quand même, par rapport à d'autres clubs, c'était
Benzema.
Toujours
Benzema,
etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu... mais moi, je suis d'accord avec vous, c'est pas lui qui a forcément... changer, c'est le monde qui l'entoure qui a évidemment bougé. Et le trading, par exemple, qui est venu rebattre un peu les cartes du football contemporain, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus installer d'équipe comme il l'a fait par le passé et être hégémonique sur le championnat de France.
Il ne faut pas oublier une chose, après je vais laisser la parole évidemment, mais il y a une chose importante, c'est que lui, il avait un modèle économique qui était basé notamment sur la construction d'un stade et d'une entité autour du stade, ce qui était à l'époque très très novateur. Mais mine de rien, dans les dernières années...
Il a fini par le construire en plus.
Il l'a construit,
parce que
ce qui était alors
qu'il avait du temps.
Il avait du temps, dès qu'il prenait un terrain, il y avait un agriculteur qui disait « moi je ne veux pas, hop, un process après 6 mois ». Donc ça a été quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, quand je suis retourné à Lyon, j'étais avec lui, regarde le stade, il y a M. Penaud. Hein, vous imaginiez que ça se ferait. Je dis, ah non, ouais. Dans 2000, dans les premières années, c'est quand vrai. Je vous ai suivi, jamais j'aurais imaginé. Mais ce modèle-là, d'une certaine manière, il a été aussi un peu dépassé.
Peut-être. Et justement, Jacky Bonnevet, la chose, c'est qu'il avait construit, effectivement, alors, au-delà d'une famille, il avait construit quelque chose qui nous semblait cohérent, parce qu'il y avait des installations, et puis il y avait aussi cette équipe de football féminin. Oui. Et on en a souvent souri en disant, ben bah oui, l'OL a gagné beaucoup de Coupes d'Europe, et ils peuvent les avoir leur palmarès. C'était grâce aux filles. Et on sait qu'il les a beaucoup choyées, il les transportait absolument dans son avion et tout ça. Tout ça, ça a été vendu, bradé, oublié, oui, par John Textor. C'est un changement d'époque. Ça l'illustre.
Oui, et Jean-Michel Aulas, il faut reconnaître que ça a été peut-être un de nos plus grands présidents français. Son stade, tu en parlais, Hervé, c'est l'œuvre d'une vie. Moi, j'aurais jamais imaginé voir un stade comme celui-là. Le foot féminin, c'est lui. Il a été précurseur dans quand même beaucoup de choses. Lyon a survolé le championnat à 7 titres. Sans interruption pendant de nombreuses années et avec quel type de joueurs. Voilà, un centre de formation qui était un des plus performants, qui a sorti une multitude de joueurs. Et ceux qui n'arrivaient pas à percer à l'Olympique Lyonnais, il y en a pratiquement plus encore qui ont renforcé certaines équipes de Ligue 1.
Mais ça, c'est le passé du football.
C'est le football qui évolue. Alors, c'est vrai, Hervé l'a dit. La difficulté, c'est qu'il n'était plus majoritaire. Il a été obligé de vendre. Il le regrette, mais
est-ce
il était
justement,
obligé.
Au-delà de son âge et du temps qu'il a passé à l'OL, il représentait le football du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, le football, c'est le trading, c'est des investisseurs qui parfois n'y connaissent même rien
aussi,
en foot
hein. Il a su le faire aussi, mais c'est vrai qu'on est obligé d'entrer dans une ère qui ne nous convient pas vraiment, mais on est obligé de la subir. Moi, je vous raconte une anecdote avec Jean-Michel Aulas. Quand je jouais à Marseille avec Bernard Tapie qui est arrivé, c'était l'année 86-7, Lyon était en Ligue 2, et Bernard Tapie, il était toujours suivi par un gars qui était derrière lui, un jeune de 35 ans, etc. Et nous, on lui demandait qui c'était ce type-là qui le suivait partout. C'était Jean-Michel Aulas qui venait apprendre au contact de Bernard Tapie. Et nous, Bernard nous disait, c'est un jeune à fort potentiel, un investisseur, et il me suit parce que je pense qu'il a un potentiel incroyable pour s'occuper et de faire de Lyon un grand club. Et quand j'ai revu M. Aulas lors d'un match, je lui ai cité cette anecdote et il m'a dit effectivement, je vous ai suivi pendant pratiquement une année dans les débuts de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille. Donc ce qu'il a fait
c'est
est remarquable.
C'est lui qui l'envoie à Lyon d'ailleurs. Hein.
Exactement, c'est lui qui fait en sorte de succéder à M. Michigarian, quelque chose comme ça. Hein, c'est ça. Et il a fait un club, une machine de guerre pendant de nombreuses années. Alors maintenant, c'est sûr qu'il est certainement un petit peu, comment on va dire, déçu de la tournure des événements parce que ce n'est pas ce qui lui correspond.
Il ne le reconnaît plus, quoi.
Voilà, il ne s'y reconnaît plus, tout à fait.
C'est pas son football, ça, la multipropriété. Alors lui, c'est un Lyonnais pur et dur qui mettait Lyon au-dessus de tout. Là, quand vous lui dites, il y a Botafogo, Charleroi.
Le côté terroir, il n'est plus vraiment présent.
Ça n'existe plus. Puis d'ailleurs, on le voit. On veut maintenant mettre un peu de côté les joueurs lyonnais. Si Tolisso pouvait partir, si Lacazette pouvait partir pour les histoires financières, hein, attention.
Bien sûr,
même Cherki.
Et des joueurs maison, quoi.
Ouais. Bah, oui, Lopez, pour faire venir. Compte, Lopez, le départ de Lopez, c'est pas rien. Il faut rendre compte.
Ça se rappelle Mandanda quand il a quitté l'OM, d'une certaine façon.
Oui, mais c'est encore plus Lopez. Parce que Lopez, c'est un gars de Lyon, c'est le gars qui était au Badgon, enfin qui est très proche des supporters lyonnais, qui représentait quelque chose. Et un jour, on lui dit mettons, tu mets quelqu'un dans les pattes, et non seulement tu n'es même pas numéro 1, mais tu n'es même pas numéro 2, parce que tu ne viendras même plus au match. Et donc, bon, il est parti. Mmh. Et c'est la fin d'une histoire. Alors, moi, je ne juge pas du
choix.
Mais
les histoires finissent mal, en général.
En général, les histoires d'amour finissent mal.
En tout cas, cette OL, on sait qu'ils ont des problèmes actuellement financiers avec la DNCG. Cette OL de John Textor, à qui donc Jean-Michel Aulas souhaite le meilleur. Est-ce qu'on va les voir en D2, comme on disait avant, en Ligue 2 l'année prochaine?
Non, je pense pas, parce que là, il y a un
parce que là, à la place des joueurs de Lyon, il fait venir tous ceux de Botafogo, justement, avec qui s'est déjà engagé moralement. Là.
Bon, il déshabille Paul pour habiller Jacques. De toute façon, on a bien compris que c'était des acrobates de la finance à haute altitude. Malheureusement, parce que moi, ce genre de modèle, ça ne m'excite pas non plus beaucoup, parce que c'est de la spéculation. Et c'est parfois sur une ligne de crête, et ça peut basculer du mauvais côté. Non, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, nos clubs hors Paris Saint-Germain, nos clubs comme Marseille et Lyon, qui sont comme pour moi des clubs très forts, bah aujourd'hui, ils sont obligés de laisser partir leurs meilleurs talents et les plus jeunes, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir de cycle en fait avec des gens qui sont ancrés sur avec un lien avec les supporters. C'est-à-dire que Cherki, par exemple, S'il y a une offre là suffisante durant le mercato, il part quoi. Mais ça veut dire quoi en fait? Tu le fais grandir. C'est peut-être un des meilleurs jeunes d'Europe à son poste. Et en fait, ton public, dont, pour qui tu as fait un nouveau stade, il va le voir un an et demi, en fait. Mmh. C'est ça, en fait, qui m'attriste, quoi, tout simplement. Oui, alors, Cherki, on pourra le suivre au Bayer Leverkusen ou à Liverpool. Mais quid du football français là-dedans?
Malheureusement, les clubs français n'ont pas d'argent. Enfin,
oui, mais
c'est la
que
plupart
Angers,
des clubs.
Que Angers, Lorient ou d'autres clubs de villes moyennes, etc., sont en difficulté. Et encore, je pense qu'ils peuvent avoir des modèles. Mais que Lyon et Marseille n'est plus d'identité comme ça, et ouais, soit des aéroports où les joueurs partent et reviennent,
mais c'est
ça, bah... Non,
mais le grand problème du football, moi je suis bien placé, je fais partie du conseil d'administration qui a eu lieu d'ailleurs cette semaine, le problème unique du football français, c'est ses droits télé qui ont tellement baissé, bien et les clubs, vous avez pu le lire ce matin avec le club d'Angers qui n'a pas pu rémunérer ses joueurs à 50%, ils vont voir comment ils vont faire pour payer la deuxième partie des 50%, et je pense que c'est pas un cas isolé, et que c'est le très grand problème du foot français, et j'ai peur qu'on aille dans une situation encore plus compliquée dans les mois, voire les années à venir.
Oui, c'est ce qu'on craint beaucoup. Virgile, vous qui êtes joueur et qui finalement êtes à l'autre bout de l'échiquier, nous on parle des dirigeants là, on parle d'argent, mais est-ce que vous vous sentez cette évolution dans votre carrière, vous aussi, de cette pression et le fait qu'on vous utilise un peu, justement, vous avez une carrière de globe-trotteur, mais dans ces mercato où vous allez un coup ici, un coup là
C'est tous les joueurs, on est un peu des
pions.
Des pions. On est des valeurs marchandes. Si on n'a pas de valeur, on va moins être appelé. Si on a de la valeur, on commence à être appelé. Et j'ai connu les deux, donc je vois un peu. Et j'imagine pas encore l'autre niveau, le niveau d'au-dessus. Mmh. Et c'est le foot qui est comme ça.
Ouais. Vous avez jamais envisagé d'être fidèle à un club toute votre carrière?
J'aurais aimé, mais. Et la vie a fait que ça s'est pas passé.
Mmh. Ben oui, c'est malheureusement ça.
Non, mais parce qu'on t'achète pour te vendre en fait. On t'achète pas pour jouer, on t'achète pour te vendre.
C'est ça.
Enfin, c'est un peu ça l'esprit.
Te revendre.
Te revendre.
Sauf si t'es le PSG, si t'es Manchester City, les gros clubs, oui, eux ont cette possibilité.
Ce confort.
Alors, ils sont forts.
Nous, l'Olympico, on s'est dit qu'on pouvait le refaire là parce qu'on parlait de l'OL et là on va parler de l'OM.
Ouh.
Une promotion en cours d'année à la commanderie. Le conseiller sportif est devenu directeur du football de l'OM. Désormais, il faudra appeler Mehdi Benassia monsieur le directeur. Cela change-t-il quelque chose à son travail à l'OM, voire à l'ambition qu'il avait exprimée ces derniers temps pour le club?
Mon ambition, c'est de gagner un titre avec Marseille. Alors que si c'est la Ligue 1, tant mieux. Si c'est une coupe, je prends aussi. Si c'est l'Europa League, je signe. Mais je pense que ce club... Ses fans, en tout cas, quand on voit la passion qu'il y a, ils méritent de connaître aussi ce genre de joie, de victoire. Et je pense que ce club le mérite sincèrement.
Alors, pas de Ligue Europa en ce moment, hein, pas de compétition européenne pour l'OM qui se repose entre deux matchs de championnat. Qu'est-ce que ça signifie, Jacky Bonnevet, ce genre de promotion? Est-ce que ça change les attributions d'un dirigeant
Elles sont, à mon avis, maintenant un petit peu plus... élargi dans la mesure où il est venu comme prestataire de service, en sachant qu'il était agent. Donc, à mon avis, il s'inclut d'une manière un peu plus puissante dans le club. Il a fait quelques déclarations pour marquer aussi son territoire que vous avez pu lire. En deux mots, c'était que tout le monde tire dans le même sens. Donc, apparemment, ce n'était pas le cas. Moi, ce que je constate, c'est un ancien joueur de haut niveau qui a eu une carrière difficile au départ. Hein. Si on oublie, il était à Clermont-Ferrand.
Aussi,
hein.
Il
était à Clermont,
aussi.
A passé après absolument. Le Bayern.
International marocain, on s'en souvient.
Et il a bien terminé sa carrière en étant un joueur de très haut niveau. Il s'est reconverti et il a eu l'opportunité, voire la chance de faire partie de l'équipe de Pablo Longoria. Et là, à mon avis, comme il était, je pense, en période, on peut même le considérer comme une période d'essai, autant pour le club que pour lui. Et comme ça lui convient bien, il a prolongé un contrat. C'est certainement beaucoup plus intéressant pour lui, pour le club aussi, dès l'instant où il est positionné dans le club, où il aura certainement un impact beaucoup plus important qu'en étant un prestataire de service, alors que là, il a... j'allais dire une fiche de paye, et il est vraiment un pion important de l'équipe, et d'autant plus qu'il s'entend très bien avec De Zerbi. Je suis au courant parce que je suis le tuteur de Pancho Abbandonado, que oui. J'ai quitté cet après-midi, qui passe son BEPF, et j'ai l'occasion d'aller régulièrement à Marseille
donc
voir les entraînements.
Donc, l'adjoint, qui est dans le staff de Marseille.
De Zerbi a recruté 12 personnes dans son staff. Mmh. Il a gardé une seule personne qui est l'adjoint un peu emblématique de l'Olympique de Marseille, c'est Pancho Abbandonado, oui.
Qui avait fait l'intérimaire à un certain moment. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait ses preuves, Mehdi Benatia, Nabil? Selon vous, depuis qu'il est à Marseille, parce qu'on dit, on dit que notamment avec Rabiot, on lui attribue le transfert, un autre coup peut-être en devenir qui serait celui de Paul Pogba, votre copain d'enfance, Virgile.
Non, mais au départ, il est un peu comme Campos, par exemple, parce que Campos, est-ce qu'on se pose la question qu'il a fait ses preuves ou pas? Il a été prestataire de service à Monaco.
Très, très connu avant d'arriver
au PSG.
Oui,
mais il a fonctionné
Campos.
Dans le même cadre juridique, oui, c'est-à-dire prestataire de service à Lille, au Paris Saint-Germain à Monaco. Mm-hmm. Donc ça, c'était une manière de fonctionner. Mais moi, je suis d'accord avec vous, parce que quand Benatia arrive à Marseille, il y a beaucoup de questions qui se posent. Certains se disent, mais c'est qui lui, tout simplement. Mm-hmm. D'autres se disent, ah bon, Benatia à Marseille.
Est-ce qu'il a l'entregent?
Voilà,
c'est ça, la
est-ce qu'il a la légitimité? Certains ont effectivement se sont posé la question à juste titre ou pas. Ça, ce que moi je remarque, c'est que bon, effectivement, là, il va gagner en légitimité, il va être ancré au sein du club, il va avoir une délégation de pouvoir, il va pouvoir faire bouger les lignes et certainement certaines choses qu'il a dû déjà remarquer en forme d'audit sur lesquelles il n'avait pas de possibilités d'action, de levier officiel, mais là, pour le coup, il va pouvoir mettre peut-être la main dans le cambouis sur certaines choses qu'il a pu remarquer. Mais moi, ce que je remarque, c'est surtout qu'il correspond un peu à une nouvelle façon de faire, un nouveau spectre également de directeur sportif, ancien joueur, agent.
Une
surtout
figure
agent.
Déjà connue. Ouais, quand
il y en a qui ont été agents aussi.
37 ans. Hein.
Voilà, jeune également, ça c'est hyper, hyper important. Mais aussi, on parlait tout à l'heure de Aulas, mais Aulas est devenu un président star. Mais on est aussi un peu sur une évolution un peu de directeur sportif star, quoi. Maldini, Zlatan.
Oui, exactement.
Et lui, il est un peu aussi. Voilà, mais grande carrière de joueur, Et puis. Ensuite être connecté au réel et aux nouvelles mentalités et aux nouveaux codes aujourd'hui des joueurs et des agents, puisque lui-même a été agent avant d'être aujourd'hui directeur sportif à l'OM ou directeur du football. Il a été l'agent notamment d'un joueur passé par l'OM qui est aujourd'hui à Panathinaikos, qui est Unai. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce gars-là,
joueur marocain aussi.
En fait, il a fait un stage d'observation un peu dans tous les métiers du football.
Hervé, malgré tout, on se dit un directeur ne doit pas dire ça. Alors avant, il n'était pas directeur à l'époque, mais quand il s'en est pris là à Benoît Bastien à la mi-temps de OLOM justement, il a quand même eu 6 matchs de suspension, dont 3 effectifs, 3 avec sursis. Est-ce que il faut pas aussi qu'il apprenne? On sait qu'il a le sang chaud et que il a eu des propos aussi, notamment sur Jonathan Clauss. On s'en souvient qui après a été victime. Alors on connaît les pressions du côté de Marseille quand on veut vous faire quitter le club, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des maladresses un peu trop voyantes?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que Benatia, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a un fort potentiel. Moi, je sais qu'Hervé Renard m'avait toujours dit beaucoup de bien. Il l'adorait. Et certainement...
Il était son sélectionneur.
Son sélectionneur, c'était son capitaine. Et il l'adorait.
Ça s'est pas bien fini en 2018 quand même.
Qui a senti... Ouais, mais enfin, après, ça c'est l'histoire du football. C'est un joueur, lui-même, Benatia, il taille les joueurs qui ne sont pas contents d'être un peu en fin de course. Il comprend ce que c'est. Après, simplement, le respect qu'on peut avoir avec quelqu'un, c'est d'être honnête avec lui. Après, la suite, c'est autre chose.
Pas forcément au public.
Donc, le problème de Benatia, effectivement, c'est quelqu'un qui a le sang chaud et qui, de temps en temps, a pris quelques aises avec la communication. Et ce qu'il a fait, effectivement, sur M. Bastien était totalement scandaleux, parce qu'à un moment, il faut quand même respecter à minima les arbitres, parce que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jeu. On peut, de temps en temps, évidemment, égratigner certaines décisions, que je peux comprendre, parce que sous le coup de l'énervement. Mais vu son grade et son stade aujourd'hui. Et ça va être dans son évolution de carrière. C'est un jeune, il a 37 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, il se verra peut-être à 37 ans en se disant « j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, j'aurais dû être comme ci, comme ça ». C'est comme c'est quelqu'un qui est très ambitieux et qui a des connexions un peu partout. Parce que vous ne jouez pas à la Juve, au Bayern, sans connaître, sans avoir des gens qui vous suivent. Donc c'est intéressant. Moi, je pense que c'est une très belle, pour l'instant, c'est une très belle évolution
après,
de carrière.
Attention sur les sorties. Il y a ce que nous, grand public, on dit, c'est-à-dire on dit « oui, c'est scandaleux, machin ». Mais lui, il a un autre logiciel, il s'adresse aux Marseillais. Non, mais c'est une stratégie aussi de sa part. Parce que quand vous allez à Marseille,
peu importe,
je pense qu'ils ne disent pas que c'est scandaleux.
Non, mais c'est pas grave, il ne peut pas insulter quelqu'un parce que dit jour,
il n'y a pas que Marseille, il y a aussi tout le reste de la France.
C'est-à-dire qu'il est capable de faire preuve de populisme, c'est ça que je suis en train de vous dire.
Ah oui.
Ah bah oui, mais c'est vrai.
Jackie, est-ce que ces staffs, quand même, ils ne deviennent pas. On a l'impression que dans les clubs, maintenant, il y a les acteurs, les joueurs, et puis vous avez quand même des staffs qui ont l'air de devenir de plus en plus importants, ne serait-ce que ceux des entraîneurs déjà, mais maintenant même ceux des dirigeants.
C'est incontestable. Maintenant, un entraîneur, il manage différents staffs, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la tactique, mais il y a des faiseurs d'entraînement. Je suis bien placé pour le dire, dans l'évolution du métier d'entraîneur qui a complètement changé. Maintenant, il doit manager un staff technique, un staff médical, un staff pour la data, un staff de dirigeants. Pas qu'il manage les dirigeants, mais il est obligé d'avoir des rapports très précis. Pour revenir à Bennacer, je pense même qu'il est intervenu d'une manière, on parle du réseau sur la venue de De Zerbi.
Oui.
Je crois qu'il a été important dans cette venue, donc il a aussi un carnet d'adresses, il a des connexions. Pour revenir à son comportement, c'est vrai que c'était inapproprié concernant Klaus et concernant M. Bastien. Il a le droit de progresser aussi, on l'a dit, il a 37 ans, je pense qu'il doit tenir compte de ça. Il a tout le potentiel pour justement, il est en action à Marseille dans un club où, qui est souvent en crise. Cette année, ça a l'air d'aller à peu près bien. Mais c'est vrai qu'il y a des staffs complètement, parfois même, je serais tenté de dire, démesurés.
Mais Klaus, parce que ça, c'est quand même, c'est pas rien de s'attaquer à un joueur de cette manière-là. Moi, ça m'a presque plus choqué, j'allais dire, d'une certaine manière, que Bastien. Enfin, ça m'a choqué Bastien, parce que là, on peut pas faire ça. Mais Klaus, c'est quand même un joueur, il n'a jamais eu de problème avec personne. Alors, je dis pas que c'est, peut-être qu'il faut aussi quelques bêtises, mais enfin, il n'est pas le seul. Et d'un seul coup, on l'a pointé du doigt. Pour les supporters, alors là, pour le coup, ça, c'est du populisme, parce qu'on dit, regardez comment il est, etc. Ouais, enfin, votre joueur, quand il vient tous les jours à l'entraînement, et puis on le pointe du doigt de cette manière-là, et puis la preuve, à Nice, visiblement, ça se passe plutôt bien.
Vous n'êtes pas encore dirigeant de club, Virgile. On va terminer quand même cette émission avec vous. Vous retournez à Erevan. Qu'est-ce qui vous attend à Erevan dans le championnat?
Des derbies, non? Il n'y a que des derbies là-bas, non? Il y a beaucoup de clubs à Erevan, non?
Pratiquement tous les clubs sont à Erevan.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est le derby d'Arménie?
Le derby, c'est...
Vous êtes au FC Noah.
Et c'est... Probablement Lander, je crois.
Chirac-Erevan?
Non.
Punic-Erevan?
C'est ça, Punic, ouais.
Contre Ararat?
FC Punic et Ararat aussi, qui sont pas mal. Mm-hmm. Ils sont pas passés en Europe, mais à chaque fois, ils sont pas mal en Europe dans les qualifications.
Il y a un autre Camerounais célèbre, Camerounais pour le coup est aussi qui a eu la nationalité arménienne, qui a joué en Arménie, un gardien de but qui a été gardien du PSG. Je vous fais le quiz, Annie. Et à tous.
Ah bah, bien sûr. Bah, Edel.
Edel à Poulard.
Bah, oui, bien sûr. Après le Paris Saint-Germain.
Oui, tout à fait.
Et les adversaires, disons, de votre club à vous, du FC Noah, les adversaires dans le championnat,
il a dit, c'est Villander.
Ouais, c'est Punic, Punic et Ararat,
ouais.
Nos concurrents directs, c'est ça.
Et le championnat, joue en combien de journées?
Vous en êtes à 16, là? C'est un championnat de 12 clubs, toujours, ou pas?
12, ouais. Et en fait, on joue 4 fois.
D'accord.
Ah, à l'écossaise, quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire?
À l'écossais, il y a plusieurs matchs.
Ah oui.
Ils ne font pas qu'un aller-retour.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, ben Virgile, bon retour vers vos montagnes.
Et vous êtes combien en ce moment là?
Ils sont premiers. Mais
je voulais pas dans l'émission.
Je voulais qu'on le répète pour ceux qui avaient raté le début de l'émission.
Ils sont
d'une Bennacia, vous me pointez du doigt.
Avec deux matchs de retard, ils sont en tête. Merci beaucoup, Virgile Pinson, d'être venu dans le studio de Radio Foot International. Merci, messieurs. Pour cette belle émission.
C'était un plaisir.
De rentrer.
Exactement.
Demain, on est vendredi, c'est le Café des Sports. N'oubliez pas vos cartons et les filles. Surtout, on vous